Eh bien, je pense qu'on peut commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nous entamons notre quatrième conférence, donc l'avant-dernière du cycle de cette année, en accueillant Véronique Mariage, qui est psychanalyste à Tournai, qui est également directrice thérapeutique au Courtil dans la région de Tournai, plus précisément à l'Ers Nord, à la frontière française, et qui est aussi coordinatrice du Collège clinique de Lille. Le Collège clinique de Lille étant une antenne qui est dénommée à Bruxelles Antenne clinique de Bruxelles, où elle est enseignante également. Alors, elle va nous parler à partir de sa position de comment se forment les psychanalystes. Et elle m'a d'ores et déjà dit qu'elle parlerait également de son parcours, ce qui nous ramène au titre, à savoir que c'est toujours un parcours singulier. Je suis très heureuse de l'accueillir ce soir et je lui cède la parole.
Voilà, merci pour votre présence, pour quelques confidences. Voilà, alors, j'ai intitulé mon intervention, donc, pour vous parler de comment se forment les psychanalystes. Je l'ai intitulé « Qu'apprend-on d'une cure pour la pratique de l'analyste ?» Je suis donc la quatrième à venir vous parler de la formation de l'analyste. Et je me suis dit que, certainement, mes collègues en avaient déjà dit beaucoup. Comment donc encore vous surprendre sur cette question ? Car il n'y a pas de formation du psychanalyste, j'y tiens, sans provoquer quelque peu du nouveau. Cette formation est toujours singulière. Puisqu'on vous a certainement seriné, pas d'analyste possible sans être passé par le divan et avoir fait une longue cure, je me suis dit alors parlons-en encore. Pourquoi et comment rendre compte ? Pas simple, surtout sur la question qui est posée. En somme, vous pouvez chercher. Vous pouvez lire les témoignages des analystes de l'école, qui sont les personnes qui ont été nommées par la procédure de la passe dans l'école de la cause freudienne, nommées après avoir témoigné de leur propre cure, de leur propre parcours analytique, eh bien, vous pouvez chercher dans leurs témoignages ceux qui ont présenté leur cure, comment celle-ci s'est terminée pour chacun. Eh bien, ils ne disent pas grand-chose sur ce point. En somme, qu'est-ce qu'un analyste et comment se forme-t-il ? On n'en dit pas grand-chose, alors que pourtant, on attend ça de l'AE, comme si ce point était extrêmement difficile à faire entendre, à cerner. Après tout, est-ce que il peut se dire, c'est pas sûr. Donc je vais essayer, moi, de vous détenter, d'essayer d'en dire quelque chose. « Ah, je suis donc parfois psychanalyste. » C'est une phrase déterminante de mon analyste, m'a-t-il dit à la fin, au moment où tout a basculé pour moi et après laquelle je suis sorti de la cure. Donc, dans une des quelques séances à la fin de ma cure, j'ai été surprise d'entendre mon analyste dire cette phrase. « Ah donc, je suis parfois analyste. » Mais que voulait-il dire ? Que s'était-il donc passé ? La fin d'une analyse se produit par surprise. Elle relève de l'acte. L'instant d'avant qu'il a eu lieu, vous ne savez pas qu'il va avoir lieu. C'est le propre de l'acte. Ça a lieu, ça se passe, c'est passé, ça s'est passé, ça a eu lieu. Et ce n'est plus comme avant. Et de surcroît, ça produit une satisfaction. Vous en êtes content. Cette satisfaction, ne provient pas d'avoir enfin trouvé la vérité. Elle est le résultat d'un mensonge. Une analyse se termine par un mensonge. Comment, me diriez-vous, un mensonge ? Ainsi, Lacan dit, dans sa préface de l'édition anglaise du séminaire 11 en 76, « Le mirage de la vérité, dont seul le mensonge est à attendre. » Quand vous cherchez la vérité, vous tombez toujours sur un mensonge. N'a d'autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l'analyse, dit-il. Donc c'est se satisfaire d'un mensonge. Jacques Alain Miller, dans son cours « Le lieu et le lien » le soulève. Ce n'est plus en termes de vérité, mais de satisfaction que Lacan approche la fin de l'analyse. La fin de l'analyse est définie par la jouissance et non plus par le désir. Je vais y revenir. Dans ce cours, « Le lieu et le lien », Jacques Alain Miller fait valoir trois versions de la passe et de la fin de l'analyse dans l'enseignement de Lacan. Je vais les reprendre, peut-être on vous en a déjà parlé, mais je vais le reprendre de la façon dont lui les a articulées. Une première version en 67 est un projet concernant la fin de la cure en termes de problèmes et solutions. En 73, il en établit une conséquence pour l'analyse de l'école. En 76, il en parle en termes d'un premier résultat inattendu. En 67, revenons. Nous sommes donc du côté d'un projet. Lacan expose la passe avant tout comme le principe d'une refonte de l'école fondée en son école fondée en 64. L'analyste n'est plus consacré à partir de sa propre pratique. L'analysé, c'est l'analyste. La fin de l'analyse, ou de moins ce dont à quoi elle tend, serait un accès à un savoir qui était refusé ou inaccessible au sujet. Ce savoir, vous me direz une vérité. Bien non. Ce savoir refoulé, inaccessible, refusé, concerne la vérité de l'être du sujet, comme être de désir. Ce savoir, il est articulé au transfert. Il est savoir supposé non su, qui, animé par le transfert, délivre un savoir. Ce savoir qui porte sur le sujet comme être de désir est un problème qui est une solution. C'est cette solution à l'impasse que Lacan appelle la passe, à cette époque-là. Avant, le sujet était un être qui ne savait pas la cause, après il sait la cause, ce qui a pour conséquence l'émergence d'un être nouveau. C'est vraiment le tout premier temps de l'élaboration et de la recherche de Lacan sur l'être analyste, ce que c'est qu'être analyste, produit par la cure. En 73, dans la note aux Italiens, le savoir en jeu n'est plus seulement le savoir de l'être qui ne savait pas la cause de son désir, mais aussi c'est le savoir qu'il n'y a pas de rapport sexuel, qu'il y a un trou dans le savoir. Ce savoir va bien au-delà de la vérité de l'être du désir. C'est un savoir que Lacan range au registre du réel. En cela, commence en 73 par ce texte, la grande dévalorisation de la vérité, qui va ouvrir le dernier enseignement de Lacan. Ainsi dira-t-il, l'analyste, s'il y en a un, représente la chute, le rebut. L'analyste est celui qui en a fini, avec ses amours, avec la vérité. En 76, nous ne sommes plus à propos de la passe du côté du projet, mais de la passe effective, c'est-à-dire que la procédure s'est mise en route, déjà dans un après-coup de l'expérience. Croire en la vérité fait obstacle à l'accès du savoir sur le réel. Se désigne dès lors une rupture entre le réel et la vérité. Il n'y a pas de vérité sur le réel, puisque le réel se dessine comme excluant le sens. Il faut donc renoncer au savoir sur la vérité pour viser un savoir sur le réel. Le seul savoir sur la vérité consiste à savoir s'en débarrasser. C'est fort quand même. Comment dès lors inventer du savoir sans être du côté de la découverte de la vérité. Si la passe est une épreuve de vérité, cette épreuve de la vérité n'est qu'un rêve dont participe l'inconscient lui-même. On peut dès lors lui donner le nom de mensonge. C'est pourquoi Lacan ne définit plus la fin de l'analyse en termes de vérité, mais en termes de satisfaction, donc de jouissance. Avec la passe, sortons du mensonge. Lacan y répond modérément. Il parle, concernant la passe, de témoigner au mieux de la vérité menteuse, en s'historisant soi-même, pour obtenir la satisfaction des collègues. Un peu fort quand il dit ça. Historiser et faire de la recherche de la vérité une bonne histoire que l'on raconte. Pour ce faire, il faut que l'analysant ait eu suffisamment accès au hors-sens du réel, assez pour avoir quelques libertés dans la passe, pour y redonner du sens, c'est-à-dire un savoir-faire avec les débris, les résidus de sa vie passionnée en analyse. La passe est un pouce au roman. Elle se saisit plutôt là où défaille le roman. Elle se saisit aussi là où le sujet peut attester de s'être débarrassé de ses amours avec la vérité. Je vais essayer de vous faire entendre ça pour moi, comment ça s'est passé. Ainsi, dit Jacques Alain Miller, il faut une pointe de cynisme pour faire la passe, qui se traduirait par le virage de l'être au réel. Les plus honnêtes n'y arrivent pas, car ils restent captifs de leur amour avec la vérité. Les plus honnêtes n'ont pas cette distance qui leur permette de faire de l'analyse une histoire. Il faut être un peu culotté quand même, hein, pour oser faire de sa cure une bonne histoire. Ainsi, l'on peut dire que la passe est un mensonge au sens où le définit Lacan. C'est quoi le mensonge ? Le mensonge, c'est tout simplement une articulation du symbolique et du réel en tant que le mensonge, qu'il est inclus, que le symbolique s'inclut dans le réel. Le symbolique toujours ne demande qu'à tromper. L'inclusion du symbolique dans le réel est une nouvelle façon de considérer les rapports du symbolique et du réel du premier enseignement de Lacan. Où du réel s'évanouit dans le symbolique, par l'opération de la chaîne signifiante. Comment est-ce possible que du symbolique puisse se loger dans le réel ? Le mensonge de la fin de l'analyse, si les précipitations d'une vacuole symbolique dans le réel, du sens dans le réel, n'annulent pas le réel pour autant. Bon, tout ça est un peu difficile. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je vais maintenant tenter de vous l'exemplifier. Donc, dans la passe, le passant nommé à eux a su transmettre un « ça a eu lieu ». Ordonnant la logique de sa cure, il fait tout spécialement apparaître ce « ça a eu lieu », en donnant une importance particulière à l'acte qui précipita la fin de la cure. Pas toujours, mais souvent. Et comment il s'est élaboré dans la passe ? En historisant son parcours. Que s'était-il donc produit pour moi ? C'est déjà vieux, il y a 14 ans. Que puis-je encore en apprendre et en tirer de cette expérience ? D'abord, je vais vous la redire, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Comme d'habitude, voilà le récit. Comme d'habitude, je vais écouter mon analyste à son cours. Et je l'entends dire, les personnes viennent tout spécialement parler à un analyste des paroles qui leur ont été dites ou qui ne leur ont pas été dites ou qui ne leur ont pas été dites quand elles les attendaient. Ces marques de paroles, on les retrouve quand on les a oubliés, ou quand on s'en est toujours souvenu, ou on trouve l'occasion, on trouve l'occasion de les expliciter, de les communiquer, d'en voir les conséquences à grande portée. Alors ça, c'est une phrase très importante. Quand le sujet est absorbé par sa marque, c'est-à-dire ce qui le marque plus fondamentalement, les paroles qui marquent, en tout cas celles qui marquent le plus fondamentalement, ajoute-t-il, il ne s'en distingue pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas la voir, il ne peut pas s'en distinguer et il ne peut pas la dire. Je me rends ensuite à ma séance. Donc lui, il dit ça à son cours. Je me rends ensuite à ma séance. Depuis longtemps, je n'avais plus rien à dire. Et je lui dis avec ironie. Vous savez ce que mon père dit toujours, depuis, et très souvent à ses nombreux enfants, il dit ceci. Le travail est une punition, et j'ajoute, mais peut-être je ne l'ai jamais dit en analyse. L'analyste s'exclame, ça alors, et je parie que tous ses enfants travaillent comme des dingues. Il se lève, prend son cahier et sa plume, vous me redites cela, c'est formidable, je vais le noter. Et il commence à noter, disant, alors, je vais le noter. Depuis toujours, il me reçoit en face à face. Et je suis d'abord désarçonné par son mouvement, de son corps tout à coup qui bouge. Puis je répète ce que je viens de dire. Mais je rajoute, dans la répétition de la phrase, la première phrase, je rajoute un bout de phrase. Mon père disait, vous devez savoir, le travail est une punition du bon Dieu. L'analyse relève. Vous devez savoir, et il note cérémonieusement, le travail est une punition du bon Dieu, et il lève la séance. Sorti me revint en mémoire qu'en fait, mon père en disait bien plus. Il disait exactement, vous devez savoir, le travail est une punition du bon Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Jusque-là, j'avais toujours donné, avant ce moment fin de cure, une signification unique à cet énoncé que j'entendais très souvent, même répété à ses petits-enfants. J'avais l'idée que par cette parole si souvent répétée, mon père disait qu'il fallait surtout ne pas faire du travail une punition, mais qu'il fallait au contraire faire ce que l'on aimait. J'avais également l'idée qu'il était plutôt fier d'oser dire cela, de son audace à tenir de tels propos. Et effectivement, tous ses enfants semblaient animés d'un certain désir dans leur travail. La semaine suivante, je viens à ma séance et dis à mon analyste, « Vous ne savez pas ce que vous avez fait en écrivant cette phrase. » Et je lui fais part de la phrase complète proférée par mon père. « Vous devez savoir, le travail est une punition du bon Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. » « Eh bien, me dit-il, alors je suis donc parfois analyste. » Et il lève la séance. Écrite par l'analyste, cette parole prit un nouveau sens. Elle m'est apparue sur son versant d'horreur et de condamnation. Je pus alors entrevoir que cette sentence tirée du texte biblique du livre de la Genèse avait prescrit mon destin et qu'elle éclairait d'un jour nouveau ce qu'avait été mon parcours analytique. Le Père tant chéri m'est alors apparu comme la voix d'un sur moi qui vient dire que dans la vie, il y aura toujours un manque à jouir, irréductible. Avec l'acte de l'analyste, après une longue période de cure que l'on peut qualifier de hors sens, surgit et se dégage, après un trop plein de sens, cet objet voix, la voix du Père, et sa fonction de surmoi qui en impose. Travaille pour ta punition. C'est bien l'analyste qui l'incarnait trop, sans doute et heureusement, ce qui me réduisait, pétrifiait au silence. Alors c'est là que je veux essayer de vous faire saisir quelque chose d'important. l'analyste, incarner donc cette place vide du réel par l'objet voix. Pas seulement dans la cure, mais aussi lorsqu'il donnait cours et par son savoir. Avec son enseignement et son savoir, il colmatait cette faille. En écrivant la phrase, il se déplace, tout à coup, son corps se déplace. Avec l'écriture, il en fixe le sens, mais le défixe, le fait passer dans une pantomime et introduisant du semblant. Vacuole de symbolique dans le réel. Du symbolique réorganise le réel. Le passage au semblant et sa face de mensonge fait voler en éclat le dispositif à l'analytique. L'acte de l'analyste dénoue un circuit de jouissance pulsionnel accroché à l'objet voix qui se satisfaisait à l'infini. Délivrant le sens du joui, il sépare le joui du sens. C'est donc une inclusion du symbolique dans le réel que se termine cette analyse. La place laissée par l'analyste y incarnait la voix du père porteuse de sa phrase symbolique n'est alors qu'un trou avec lequel il faudra savoir y faire, savoir tromper et satisfaire ses collègues et son école, pour une nouvelle cause qui n'existe pas, réelle, celle de la psychanalyse. Je vais un peu fort, hein. Bon. Mais revenons à cet étrange moment. Cet étrange moment de surprise. Alors, je suis donc parfois psychanalyste. Comment pouvait-il proférer une telle affirmation ? J'avais toujours pensé qu'il était psychanalyste, puisque je m'adressais à lui pour qu'il le soit. De plus, j'avais choisi celui qui en savait un bout. Le meilleur ai-je toujours pensé. L'analyste n'existerait donc que par son analysant. L'analyste, on ne l'est donc jamais, enfin que parfois dans l'acte. Pourquoi ? Ce que j'ai appris et expérimenté est quelque chose d'important à saisir. Je peux dire maintenant que c'est sans doute l'essentiel de ma formation de psychanalyste. C'est ce qui me permet de ce que j'ai appris enfin, afin de tenter de tenir une position qui permet à d'autres de s'impliquer dans le discours analytique. Jacques Amel-Miller, dans une discussion à l'ECF, publiée dans la revue 52, distingue deux positions de l'analyste. Une analyste en position de sujet et l'analyste en position d'objet. L'analyste analysant et l'analyste agent. La position analysante de l'analyste est aussi essentielle que celle de l'agent analyste. Cette position est celle qui laisse présente la passion de l'ignorance, c'est-à-dire la position analysante de l'analyste. C'est-à-dire qu'en tant qu'analyste, il continue à se placer au point du « je ne sais pas », ce qui est à l'opposé de l'infatuation. C'est dans le contrôle de sa pratique qu'il est tout particulièrement dans la position analysante de l'analyste, c'est-à-dire à être en position de déchiffrement de son expérience, comme le bon analysant. L'analyste analysant est évidemment en tension avec la position de l'analyste agent, c'est-à-dire en position d'objet dans l'acte, en position de l'analyste agent. Il n'y a pas de formation de l'analyste. Il n'y a que des formations de l'inconscient, dit Lacan. L'analyste analysant est en prise avec son « je n'en veux rien savoir ». L'inconscient n'est pas seulement dans le « je ne veux rien savoir », mais aussi dans l'embrouille. C'est ce que dit Lacan dans son séminaire « L'acte analytique ». L'inconscient est aussi bien dans le « je perds le fil », dans « je m'y retrouve pas ». L'inconscient est dans l'embrouille et pas seulement dans le refoulement. L'analyste analysant met cela donc au travail à l'infini. C'est pour ça que l'analyse continue toujours à se former, mais aussi à tenter de saisir et d'articuler sa pratique, par exemple, dans le contrôle. analyste, impossible de l'être, pourrait-on dire, sauf dans l'instant de l'acte. Et encore moins, ce qui serait pire, serait de s'y croire analyste. Pour qu'un effet psychanalytique puisse se produire, il faut donc laisser cette place vide. Ne faut-il donc pas distinguer, ça c'est une question que moi je pose pour discuter, ne faut-il donc pas distinguer l'être de l'analyste de la position d'agent de l'analyste, sa position d'objet qu'il a à tenir. Distinguer l'être de la position. Dans ce moment d'expérience de fin de cure dont je vous ai parlé, qui le fait dire « je suis donc parfois psychanalyste et qui m'a surpris », a lieu une interprétation particulière. C'est en se dégageant de sa position d'agent, comme analyste, c'est-à-dire incarnant l'objet-voix, qu'il incarnait un peu trop, que l'acte d'interprétation a pu se produire dans une heureuse rencontre du quai. Enfin, si vous voyez l'idée que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui donne de la voix dans... Quelqu'un qui donne de la voix, qui prend énormément de place pour l'enseignement, et en même temps pétrifié devant... devant ce personnage qui a l'habitude de donner de la voix et ne pouvant plus parler, moi-même, pétrifié par ce moment. De se dégager de cette place, rien que par le mouvement de son corps et le fait d'écrire la phrase, alors que je reprenais une phrase que je venais d'entendre dans son cours. De se dégager de ça, tout d'un coup, moi, m'a fait entrevoir de ce déplacement. Eh bien, je pense qu'il quitte il quitte sa position d'agent, c'est-à-dire celle où il incarnait par trop l'objet-voix. Il se décale, il vide cette place, et du coup, quelque chose se produit d'autre, se précipite. Et c'est de ça que je pense, parce que c'est le travail que j'ai fait pour aujourd'hui, ça. De ça que je pense qu'il dit « alors je suis parfois psychanalyste ». C'est de ça, c'est de... Bon.
Qui touche à l'être.
Oui, être psychanalyste. C'est autre chose qu'une position, de tenir une position. Et donc, quand on dit « je suis psychanalyste », c'est toujours un peu désarçonnant. Alors, quelque chose d'important encore dans le... Pour que quelque chose se produise de cette façon, qu'une tuquée puisse tout à coup surgir, Jacques-Alain Miller, il dit, c'est pas sans automaton. Automaton et tuquée vont de pair dans la formation. Répétition, insistance et persévérance joue un rôle essentiel dans la formation. Et c'est sans doute le versant répétition qui permet à la rencontre d'avoir lieu. Ce n'est que lorsque l'analyste est formé que de temps en temps, ça lui échappe. Ça, c'est l'interprétation. Dans le même moment de l'interprétation, l'analyste est comme dépassé par son énoncé. C'est dans l'ordre de la contingence du non-maîtrisable. Quand il s'est levé, qu'il a pris sa plume, il n'a pas du tout pensé à l'effet qu'il produirait. Mais cela ne vaut qu'une seule fois que l'analyste est formé, dit-il. C'est lorsqu'on est rompu à la discipline de la répétition, à la bêtissez-vous de l'apprentissage, que quelque chose comme la tuquée, la grâce de l'interprétation peut se produire. L'interprétation... Ici, c'est une interprétation conclusive. Mais comme toute interprétation, au sens lacanien, qui n'est pas un plus de sens, mais qui est une coupure et qui introduit un hors-sens. Jacques Alain Miller souligne alors l'importance de la formation comme système. Pas de hasard dans la formation, et se laisser prendre par la surprise, donc, est toujours ce fond de répétition organisée. Pour que le X vienne de surcroît, il faut Y, par rapport à quoi X vient de surcroît. De surcroît veut dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, et puis il faut encore attendre un supplément, qui, lui, n'est pas maîtrisable. La cure, donc, essentielle à la formation de l'analyste, produit quelqu'un qui a expérimenté et s'est défait de ce qui se répétait, de ses identifications une à une, avec leur lot d'attaches jouissives. L'analysant, dans son devenir analyste, se dégage ainsi pas à pas de l'embrouille inconsciente et ses attaches signifiantes, et au-delà d'elle, au plus loin de son rapport à l'impossible. Certes, cela lui permet de laisser place à entendre l'embrouille inconsciente de celui qui vient s'adresser à lui, que de s'être dégagé de sa propre embrouille. Mais cela n'est pas sans reste. Dans l'opération, même de la production d'un moment du conclusion de la cure, ça n'est pas sans reste. Dès lors, il faut savoir comment faire avec ce reste. En faire formation à l'infini, notamment par exemple dans le contrôle, mais aussi en savoir y faire avec, ce que l'on nomme symptôme ou style de vie. Je vais essayer de vous faire entendre alors une autre traversée. Alors là, je vous ai déjà fait entendre que la cure était essentielle pour la formation et indispensable. Mais sans doute, ça ne suffit pas. Plein d'autres choses qui forment l'analyste. Je vais revenir à ma rencontre tout au début de ma rencontre avec la psychanalyse. Comment s'est-elle faite? Dans les années 70. Vous voyez que c'est très vieux. J'entends parler pour la première fois de psychanalyse dans mes études de sciences religieuses. Par des jésuites proches de psychanalystes ayant sans doute fait un bout d'analyse. Tout spécialement dans un cours sur le phénomène religieux. Moïse et le monothéisme, totem et tabou, en ont été les textes d'études. Puis, un roman m'a saisi. Un témoignage d'une analysante m'avait beaucoup impressionné. Vous le connaissez sans doute, Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Ce roman faisait écho aux difficultés de ma vie amoureuse, mais pas seulement, aussi avec les difficultés d'avec mon corps, mes symptômes. Jeune professeur de religion, le hasard de l'emploi m'engagea comme professeur de religion catholique dans une école d'enseignement secondaire spécialisée pour jeunes filles. À l'époque, que les écoles d'enseignement spécialisées étaient pour filles et pour garçons. C'était séparé. Cette école faisait partie d'un tout IMP où l'on prenait en charge la rééducation de ces jeunes sur tous les plans. Je devais donc enseigner la foi, l'espérance et la charité à des adolescents dits déficitaires, mission qui m'est apparue d'emblée impossible. Lors des quelques années passées dans cette école, différentes choses me surprenaient. Céline ne sait toujours pas compter, j'entendais. Ne sait toujours pas compter jusqu'à 5. Isabelle a encore empêché les autres de travailler. On a beau établir des contrats avec elle, elle ne les tient pas. Il faut être plus ferme, faire respecter le règlement et punir, mais elle ne fait pas les punitions. Nathalie passe ses journées tête baissée, adossée au mur jusqu'au bord de la porte de sa classe, sans pouvoir y entrer. Inlassablement, elle épluche ses vêtements, dont elle fait de petites boules qu'elle fait rouler entre ses doigts. Si deux forces on l'a fait entrer, elle reste pétrifiée, debout, au milieu de la classe. On la laisse donc dehors, dans le froid, où elle devient le souffre-douleur de ceux qui passent. La liste des situations impossibles de ces jeunes me heurtait. Et en bonne hystérique, je n'avais de cesse de le dénoncer, ce qui n'était pas en conflit. C'est à cette époque que je fis une rencontre. celle d'Alexandre Stephen, jeune psychiatre, psychanalyste, qui venait d'être engagé dans l'institution. Il était venu nous parler de ce que Lacan et la psychanalyse disaient de la débilité. Je n'avais jamais entendu parler de Lacan. Sans comprendre, je découvrais un savoir qui m'échappait. Je voulais savoir. Enfin, parlait-on de ces enfants autrement qu'en les qualifiant de ce qu'ils devaient être ou savoir, mais plutôt en tentant d'attraper ce qu'ils pouvaient être. L'énigme que constituait un tel désir m'intriguait. Je commençais une analyse. Mais aussi, je voulais non seulement tenter de nouer les embrouilles de mon inconscient, je voulais aussi savoir ce qu'était la psychanalyse. D'emblée, je me passionne d'aller écouter ce qui pouvait en parler et m'orienter dans l'enseignement, celui de Freud et de Lacan. Les conférences du champ freudien à Bruxelles, les journées de Prémonté avec le souvenir inoubliable de l'élaboration de Jacques Alain Miller sur le fantasme comme fenêtre sur le réel. C'est un souvenir inoubliable pour moi, ça. Le cours d'orientation lacanienne, ensuite, auquel j'assistais sans jamais en manquer. Sans jamais en manquer un, jusqu'à ce qu'il se taise. La section clinique de Paris, avec sa présentation de malade, d'Éric Laurent à Sainte-Anne, où j'ai appris à rencontrer la singularité de la psychose, avec toujours un petit côté contrebande de consommer du savoir en trop, d'oser y aller. J'avais toujours ce sentiment d'oser attraper un savoir de contrebande, en trop. Normalement, je n'aurais pas dû savoir, ou pas y être. J'avais toujours cette division-là. Pendant très longtemps, je l'ai encore d'ailleurs, pour certains moments. Alors, comment je continue ? À cette époque, m'y étant mise donc dans le... d'avoir osé faire le pas d'aller écouter mes collègues psychanalystes, j'étais toujours professeur de religion, je l'étais pendant 7 ans dans cette école, jusqu'au jour où de participer à ce travail d'école, d'école d'enseignement spécialisé, était devenu insupportable. Je ne pouvais plus supporter que Céline, Isabelle, Nathalie et bien d'autres, qui soi-disant bénéficiaient d'un enseignement adapté à leurs difficultés, s'excluaient d'un discours qui tentait de les récupérer, s'en faisant une nouvelle fois le déchet. Elles témoignaient d'un réel intraitable. Elles étaient l'objet de la plainte de tous, laissées tomber depuis plusieurs années. Mais pourquoi donc leur proposait-on d'aller à l'école ? Cette question me taraudait lorsqu'elle vint rejoindre l'idée d'un nouveau projet, celui de la fondation du Courtil par Alexandre Stephen. Si je vous dis tout ça, c'est que pour moi, c'est... Je voudrais vous faire entendre de pourquoi ça a un effet de formation de travailler en institution. En tout cas, celle-là. Donc, je voulais y prendre part, mais surtout, je le souhaitais pour les laisser en plan. Pour m'occuper des laissés en plan de l'école. Je persuadais donc le directeur et mes collègues enseignants de reprendre mes cours de religion en plus des leurs. Je les avais persuadés. Et moi, je partais avec tous ceux qu'on ne voulait pas à l'école, au Courtil qui débutait. La fondation du Courtil répondait donc à une nécessité de créer un lieu où l'on pourrait enfin prendre en compte un réel intraitable par le discours du maître, ou encore ce que ce discours produit comme déchet. C'est donc animé par un désir de ne pas laisser tomber les laisser tomber, c'est très fort, que je m'engageais à accompagner ces jeunes au Courtil. Aveuglée par ce fantasme, je me suis mise donc au travail, soutenue par le désir qui s'y logeait. Il ne m'a pas été pourtant permis au Courtil de rester aveugle sur ce point. Car une institution qui fonderait sa pratique uniquement sur ce fantasme, est une institution humanitaire. Une institution qui relève de la psychanalyse fait bien sûr devoir d'humanité. Mais pour qu'elle relève de la psychanalyse, elle a à faire un pas de plus. Mais lequel ? Nous pourrions dire déjà qu'il faut un dispositif qui permette que l'on se déprenne, c'est très important, qu'on se déprenne du « ne pas laisser tomber les laisser tomber ». Mais alors pourquoi d'autres ? Je n'étais donc plus professeur, je n'étais pas psychanalyste ni psychologue, je n'étais pas éducatrice, rééducatrice ni éducatrice. Qu'étais-je donc ? Si cette question se travaillait dans ma propre cure, elle n'avait pas de réponse. Plutôt, s'en dégageait-il un espace vide ? Au lieu de cette place vide laissée par la désidentification, se précipitait dès lors d'autant plus ce fantasme. Ne pas laisser tomber les laisser tomber. C'est donc soutenu par ce « ne pas laisser tomber les laisser tomber » que je travaillais bien des années. Ce qui ne fut pas sans effet pour beaucoup de jeunes psychotiques accueillis au Courtil. Je me coltinais les plus difficiles. Ceux de les débridements de jouissance étaient les plus insupportables pour chacun. Je revendiquais leur place, mais aussi m'acharnais à transmettre ce qu'ils m'apprenaient de surprenant, afin de démontrer leur mise au travail en tant que sujet. Dites-vous bien que c'est ce travers-là, on l'a encore toujours au Courtil. Vous allez, ceux qui connaissent, entendront quelque chose. Donc ceci dans les réunions cliniques mises en place dès la fondation du Courtil. Ça me donnait une place dans la vie, ça m'accrochait à la vie, ça devenait l'essentiel de ma vie pour survivre, je dirais. Alors, je vais vous donner trois petits exemples cliniques, si on a le temps encore. Hein ? Trois petits exemples cliniques qui sont déjà anciens, d'enfants que j'ai rencontrés au Courtil, et de la façon dont je le prenais à l'époque. Nathalie, arrivée au Courtil, retrouva d'emblée une place près de la porte de la cuisine pour continuer son travail d'épluchage de ses vêtements. Je vous en ai déjà parlé. Mais attentif, elle nous fit découvrir qu'à chaque fois que l'on passait près d'elle en la saluant, « Bonjour Nathalie », elle attendait qu'on l'ait juste dépassée pour nous jeter un regard furtif, puis se retourner, semblant parler à une ombre qui la faisait rire. Mais aussi qu'elle faisait taire par un geste de la main. De sa place près de la porte, elle suivait toutes les conversations. Telle fut pas sa surprise quand un jour un intervenant incarna cette ombre en silence. Les effets ne se firent pas attendre. Elle se mit à parler et répondre à nos sollicitations. Nathalie put dès lors participer à la vie quotidienne du Courtil en nous suivant comme son ombre la suivait et installa un échange par l'écriture. Voilà, petit compte-rendu de cas très resserré, de quelque chose, d'un acte, quelque chose qui a basculé pour cette jeune qui a pris une autre position. Damien nous a pris l'essentiel des fondements de la structure des psychoses. L'élaboration de ce savoir est un travail assidu d'élaboration imaginaire, construite pas à pas avec lui, ne venait toutefois pas traiter une jouissance qui l'envahissait et le rendait violent avec lui-même et les autres depuis plusieurs années. Celle-ci devenait d'autant plus envahissante depuis l'apparition de la puberté. Lors d'érections qui envahissaient tout son corps, Damien se figeait sous un S insignifiant, grand, mâle, fort, coq, monstre, s'identifiant alors massivement à un personnage de télévision Hulk, demi-monstre qui se transforme. Ayant subi la transformation. S'arrachant les vêtements, il tente d'étrangler celui qu'il rencontre. Afin qu'il ne soit pas exclu de l'institution, je prenais le risque de m'isoler avec lui. J'en ai quand même fait. Lorsqu'il se fige dans cette érection, je lui dis alors avec persuasion, « Quand on est grand, fort, on peut aussi travailler et être un travailleur. Je lui répète ça souvent. Se saisissant de ce signifiant travailleur, il devint le travailleur de l'institution. Sorti de l'institution depuis maintenant 20 ans, ce signifiant organise sa vie. J'en ai eu 10 ans plus tard encore des échos. Joseph, lui, est persécuté et violent. Afin qu'il puisse être admis au Courtil, je m'engage à ce qu'il soit présent uniquement les jours où moi-même je suis présente. C'est des choses que je ne ferais plus. Je vais me dire pourquoi après. M'accaparant par son trop de présence, sa voix, ses commentaires, son exigence, son savoir qu'il impose, ses farces comiques qui m'y ridiculisent. Il entretient de longues conversations, adresse ses questions, ses réflexions et solutions. C'est par ce biais qu'il arrivera à localiser ses idées de persécution uniquement sur son père disparu. Il quitte le Courtil avec cette idée. Celui-là, son père, si je le rencontre de l'autre côté de la rue, je lui casserai la figure, puis je changerai de nom. 4 ans plus tard, il vient nous retrouver pour nous annoncer qu'il a trouvé du travail en cuisine. Il me rappelle exactement cette même idée à propos de son père et m'informe que maintenant qu'il est majeur, il fait les démarches afin de changer de nom pour ne plus avoir de père. Au Courtil, rien n'indique comment il y a lieu d'être présent en sujet psychotique. Ceux qui y travaillent ne s'y engagent pas sous un titre qui déterminerait un savoir-faire déjà là. Chacun s'y implique en tant que sujet et avec ce qui cause son désir. Aussi a-t-il à rendre compte de sa rencontre avec ses sujets dans les réunions cliniques afin d'élaborer la clinique produite. C'est ce que je viens de faire là avec vous. Produite par l'acte de chacun, mise au regard de celui des autres. C'est essentiel, car c'est par ce biais qu'il est possible à l'intervenant de ne pas travailler uniquement avec son fantasme. La cause du désir soutenu par le fantasme peut ainsi se transformer en désir de savoir. Ce déplacement est indispensable. Il est condition pour que la pratique en institution relève de la psychanalyse appliquée. Cette fonction relève de l'analyste qui y prend place. Cette fonction de l'analyse qui y prend place me fut un jour confiée, celle de responsable thérapeutique, peu après un moment important de ma cure. Étonnamment, une interprétation de mon analyse m'avait fait entrevoir que si je ne pouvais pas laisser tomber, c'était pour ne pas être laissé tomber. C'était donc moi qui étais la laissée tomber et que je tentais de sauver. Ça a défait. Cette vue sur le fantasme n'avait pas pour autant permis de lâcher la jouissance qui s'y logeait. Être présent, beaucoup travailler, s'imposer avec ses enfants avant de laisser place à la solution que chacun de ses enfants inventait, afin de sortir de sa position d'être le déchet. L'équipe devait ainsi me suivre sous l'impératif « travail ». J'étais tout entière à trouver par tous les moyens ce qui faisait le thérapeutique, la solution thérapeutique. Eh bien, la fin de mon analyse, la découverte de cette sentence, la punition, le travail sous le coup de la punition, quelque chose s'est levé pour moi. Quelque chose s'est produit, un désenchantement de la thérapeutique. Quelque chose du thérapeutique était lesté. C'est-à-dire que je me suis beaucoup moins intéressée à trouver des solutions thérapeutiques pour ces sujets. Ce dernier temps donc de la cure et son événement de conclusion modifia radicalement cette position. L'interprétation de l'analyste qui subitement surgit là, donc sur le qui met en valeur la sentence surmoïque de cet énoncé du père, le travail sur le coup de la punition, cet acte, bien, a vraiment déplacé le poids de jouissance qui se logeait, celle prise dans la punition par le travail. Derrière le fantasme héroïque, on pourrait dire, ne pas laisser tomber les laisser tomber, se cachait donc une autre jouissance ignorée jusque-là, localisée sur la voix du père proférant la sentence. Je pus dès lors entrevoir combien la jouissance de la punition avait orienté ma vie et mon travail. L'allègement du poids de cette jouissance qui s'en produit ne fut pas sans un effet. Lesquels ? Quels en sont les effets dans ma pratique en institution, mais aussi dans ma pratique d'analyste ? Une pratique qui ne s'oriente plus par le fantasme, ne pas laisser tomber les laisser tomber, et l'impératif sur Moïc, travail, s'évanouissait. Dès lors, je ne pouvais plus croire à l'analyse et l'idéaliser. Un trou s'était produit dans la croyance à la thérapeutique. Opération donc de désidentification allait de pair avec une désidéalisation. Bon, je pourrais en rester là. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, notamment sur, c'est une question pour moi, que fait l'analyse du reste produit de sa cure ? S'il pratique l'analyse, on peut dire qu'il en fait un symptôme. Pourquoi, après tout, alors que l'essentiel a été touché, pourquoi continuer à se passionner autant pour la psychanalyse ? Sans doute parce que c'est vital. Pour moi, c'est vital. Avoir ce rapport à la psychanalyse, avoir ouvert cette ouverture sur le réel, produit, je dirais, un style de vie. Je dirais ça, comme ça. Être un accompagnant de l'impossible, en tenant place du sujet supposé savoir, qui permet à d'autres de découvrir leur vérité menteuse. Voilà, bon, je dis ça comme ça. Mais il y aurait à développer ce point, c'est sans doute pas encore assez, au bout de 14 ans de travail après, pas encore assez clair pour moi. Voilà.
Eh bien, Véronique, vraiment merci pour ce témoignage très engagé.
Bon, j'ai pris comme ça. J'ai pris comme ça la question de la formation.
Et très singulier, vraiment. Voilà. Merci. Alors, je vais essayer de formuler une ou deux questions, peut-être pendant que vous pouvez réfléchir aussi au vôtre pour animer le débat. Des questions ou des points qui m'ont marqué au départ de ton propos, tu as parlé de la passe et du fait que quand ça se passe, la passe, c'est pas peut-être contrairement à une idée que le grand public pourrait avoir, un moment qui clôt quelque chose, mais c'est un moment actif, c'est-à-dire que dans la passe elle-même il y a une élaboration. Et ça, les témoignages d'analystes le mettent particulièrement en évidence, me semble-t-il, que c'est un moment d'élaboration en soi. J'étais aussi marquée dans ton témoignage par le fait que tu soulignais la présence du corps de l'analyste, en tout cas pour ce moment qui t'a concerné, et finalement ça fait lien aussi avec la vignette clinique que tu nous donnais de Nathalie, où à un moment l'intervenant mime l'ombre et donc
il mime pas, il se met à la place de l'ombre.
Voilà, il y va de son corps aussi, ouais, dans l'interprétation. Donc ça me semblait important de souligner ou de questionner le rapport de l'acte au corps.
Tout à fait.
Alors, Une autre question qui m'est venue par rapport à cet être analyste, tu as souligné, et au fond, je crois que quand on est dans le travail analysant, on perçoit très bien cette dimension, le côté un peu particulier de dire à un moment « je suis psychanalyste hein ».
Bon, il me l'a dit qu'une fois.
Et en même temps, ça me pose question non pas du point de vue de celui qui est au travail dans l'analyse, mais du point de vue de la présence des psychanalystes dans la cité. Comment est-ce qu'on peut négocier, au fond, ce côté... c'est un peu étrange de dire « je suis psychanalyste » et en même temps... on a une position qu'on tient, qu'on partage ou qu'on tente de partager dans la cité en disant « nous sommes des psychanalystes, quelque part ». Donc, ça, c'est aussi une question que j'avais envie de te poser. Comment tu appréhendais ça et alors, tu as dit aussi quelque chose qui m'a interpellée du côté, au fond, au terme de son analyse, tu as parlé d'un trou dans le savoir et qu'il fallait savoir y faire avec ce trou dans le savoir, en disant « pour ses collègues et pour l'école ». C'est l'expression que tu as utilisée et je me suis demandé « et pour soi-même ». Voilà, enfin, tu as souligné cette dimension... alors voilà, est-ce que la transition se fait
c'est
toujours
pas pour, c'est avec ses collègues, avec l'école.
Voilà, d'accord. Bon, voilà, c'est un peu l'ensemble des questions qui me sont venues en t'écoutant. Je peux aussi continuer, mais voilà.
Oui. Bon, par quoi je dois commencer?
Ce que tu veux.
Je les ai oubliés.
Donc peut-être le rapport du corps et de l'acte.
Ah oui, le rapport du corps et de l'acte, c'est vrai que je le vois plus clairement maintenant qu'il y a 14 ans. Ça, parce que je pense qu'on a avancé, c'est comme quoi on a avancé sur la place du corps dans la psychanalyse. Et donc je vois plus clairement maintenant. J'avais été très surprise par ce mouvement. Tout d'un coup, l'analyste. Alors moi, j'ai fait une analyse en face à face. C'est très particulier. Je suis pas. J'ai fait une partie d'analyse sur le divan, mais la plus grande partie de mon analyse, je l'ai fait en face à face. Alors c'est particulier, forcément, puisque. Alors pourquoi est-ce que j'avais besoin de voir et d'appréhender la consistance du corps et de la présence de l'analyste directement. Ça n'allait pas qu'elle soit derrière moi. Donc ça avait son importance, mais ça avait aussi, je pense, son importance de pétrification, je dirais, de blocage, je crois. Et donc, par le fait que tout à coup, il se lève pour aller chercher son cahier et sa plume, pour écrire ce que je venais de dire, ça a déplacé quelque chose, vraiment. Ça a déplacé ce qui se bloquait dans ce rapport du trop de présence et de la voix. Parce que j'étais vraiment branchée sur la voix et la voix de l'analyste, et ça a duré pendant des années et des années et des années. Je ne sais pas grand-chose. Hein. C'est très silencieuse. C'est plutôt lui qui parlait. Et donc, voilà. Et ça a déplacé ça. Ça a fait surgir autre chose. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je distingue... Et c'est à partir de ce moment-là, quand je lui dis « Vous ne savez pas ce que vous avez fait en écrivant », j'ai osé lui dire ça. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait la fois passée, à la dernière séance, d'écrire. » Et c'est à ce moment-là, la séance, vous voyez, les séances courtes, hein. Mm-hmm. Hein, j'ai juste dit ça, et puis il m'a dit, ah, je suis donc parfois psychanalyste, et il m'a mis dehors. Hein, et donc, très étrange. Bon. Il m'a fallu beaucoup de temps pour saisir qu'est-ce qui était en jeu, là. Mm-hmm. C'est pour ça que je fais la différence entre eux. Dans cette parole, quand il dit « Ah, je suis parfois psychanalyste dans mon acte », c'est pas pour autant que dans sa position, il l'est pas. Hein, je pense, c'est intéressant pour saisir que la position de l'analyste, c'est pas la même chose que le être analyste dans son acte. La position d'analyste qui incarne la présence de l'objet, le vide de l'objet, etc. Eh bien, ce n'est pas l'acte de l'analyste, ça. Et je trouve que c'est intéressant de faire cette différence. Bon, voilà, j'apprends ça.
Je vais passer dans la salle.
Tu avais d'autres questions aussi, hein,
oui, je peux peut-être, pendant que je me déplace, évoquer la question, justement, de... Ce « je suis psychanalyste » qui énoncé est un peu étrange par rapport à la place dans la cité.
Oh oui. Moi, ça me va jamais de dire « je suis psychanalyste ». Bon, je le dis parce qu'il faut bien le dire. Mais ça ne dit rien de ce que je suis. Quand je dis ça, je pense. Et donc, voilà. Enfin, c'est mon... Maintenant, ce qui est important dans la cité, comme tu dis, c'est une forme de discours. Hein. C'est de pouvoir faire savoir qu'il y a un discours qui permet autre chose que simplement l'ordre et le... Et le savoir, qu'il y a autre chose comme discours. Ça, c'est une autre dimension, voilà. Qui est impossible à savoir.
Ce qu'il s'agit, c'est de pouvoir défendre, ouais, notre authenticité.
Voilà.
Après tout, dans la cité, les chers ministres qui nous gouvernent veulent
quand
inventer,
on sait bien,
à chaque fois, toujours, ils n'inventent jamais que de la fausse psychanalyse.
Ouais.
Et donc, il y a le... Il y a une authenticité, et puis il y a quelque chose qui serait vraiment qu'un pur semblant. Et justement, dans cette authenticité, là, ce que tu fais, sur ce quoi tu insistes, j'ai entendu une partie de tout ça, mais en même temps, quelque chose de nouveau. Et là, qui m'a bien plu, c'est que tu, dans le fond, tu insistes beaucoup sur ceci, c'est que la formation d'un analyste en tant qu'elle passe par l'analyse personnelle. Il s'agit de pouvoir faire entendre en quoi, dans ce parcours-là, à la fin, eh bien, on peut opter pour la position de l'analyste. Ce qui, après tout, n'est pas écrit dans les astres.
Non.
Hein, après tout, on pourrait supposer qu'on en a assez fait, assez vu, et puis c'est bon, on va s'occuper d'autre chose. Il y a là donc quelque chose qui se poursuit, qui passe, dans le fond, de la position de l'analysant.
Oui.
Tu étais... à la position de l'analyste que tu es devenu. Enfin, ou même, bon, bref, pour le dire comme ça. Hein? Il y a quelque chose qui passe de l'analysant et de ses symptômes à l'analyste à sa pratique. Et ça, tu dis, c'est justement un point,
oui,
qui est peu montré.
Bien
parce
sûr,
que Freud a, à l'occasion, illustré certaines de ses théories avec ses propres rêves, notamment dans l'interprétation des rêves. Là, il y a beaucoup de ses rêves.
Oui.
Bon. Alors là, bon, on voit que bon, il a été prendre un matériel là où il pouvait le trouver. Bon, mais ici, ce que Lacan nous a proposé, c'est bien différent. C'est de dire que voilà, on ne devient pas analyste en analysant les autres, mais en s'analysant soi-même. Et donc, il faut aller pouvoir montrer en quoi ce qui était notre symptôme est devenu maintenant une espèce de carburant de notre pratique.
Oui.
Et ça, c'est peu montré. Lacan le dit quelque part en disant que...
En le sachant.
Voilà.
Lacan dit en le sachant, en le mesurant, en étant plus ou moins détaché en même temps. Et pourtant, ça fait l'os de l'affaire.
Lacan dit qu'il était un révolté, qu'il a fait passer notamment sa révolte dans la psychanalyse.
Ben oui.
Ça, on saisit. Miller fait remarquer que pour lui, ce qui a été décisif, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'aient pas voulu qu'il devienne analyste. À l'époque, il y avait comme ça une grande opposition des barons de l'EFP à ce qu'il s'engage lui-même dans la pratique. Là, cette opposition-là l'a motivé. Mm-hmm. Dans le fond. Alors toi, ici, tu insistes, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Il y a là quelque chose.
Dans le destin, bon, j'ai pas pu tout dire, j'ai pas pu tout. Forcément, on dit jamais tout, mais je veux dire ce qui reste de symptomatique. Je dis pas de symptômes, mais de symptomatique. Qui fait mon rapport encore à la psychanalyse, hein, qui fait que après tout, ça suffit comme ça, je m'en vais. Eh bien, c'est quelque chose d'une forme de jouissance du vivant. C'est-à-dire que ça touche au sentiment de la vie pour moi. Ça a à voir avec mon destin. C'est-à-dire que le rapport au laisser tomber, au laisser en plan, et à avoir avec le plus fondamental, et donc
debout les damnés de la terre.
Je suis, voilà. Et donc, je peux très bien encore maintenant faire des cauchemars vraiment tout à fait horribles de mort d'enfant, par exemple, et m'en trouver justement remonté. Aller très bien avec ça, justement. Que de toujours toucher ce point-là, ça a toujours un effet. Pas de mort, mais de vie. Et donc, si tu veux, c'est toujours le fond de l'os de l'affaire qui fait le rapport à la vie, qui fait qu'on continue, pour les autres aussi, à s'engager pour eux-mêmes dans ce désir-là, dans cette symptomatisation-là, je dirais.
Oui,
par exemple. Je vous dis tous mes secrets, hein, mais bon.
Oui, mais c'est ça, l'authenticité de l'analyste, c'est celui qui doit pouvoir dire d'une façon logique ce qui l'a poussé à faire ça.
Voilà.
Ce qui l'a poussé intimement à faire ça, dans le fond.
Pas seulement. Et qui fait que j'ai toujours continué à travailler avec des enfants impossibles, etc. Mort au langage, et bon.
Oui, t'es devenu une star.
Tout ça, voilà, bon, ben oui, voilà, bon. J'aurais pu laisser ça. J'aurais pu. Non, je laisse pas ça parce que ça fait partie, de ma vie, du vivant et du rapport symptomatique au corps, au vivant et à la survie et au désir. Je pense. Ça, le symptôme, c'est ça le reste, les restes. Ce qui reste, c'est ça. Et donc, continue à travailler avec ça, je pense. J'ai beaucoup de collègues qui, au bout d'un certain temps, ils ont arrêté de travailler avec des enfants, par exemple, parce que j'en ai appris assez. La question ne se pose pas comme ça pour moi. Ça fait partie de mon symptôme. Et de faire au mieux avec ça, avec le pire. Bon, voilà. C'est d'accord, hein.
Oh, tout à fait.
C'est là, pour ceux qui me connaissent un peu.
C'est l'anti Maud Manoni, là. Moi, j'avais été frappé très jeune, j'avais entendu à Saint-Louis Maud Manoni, et qui expliquait que, justement, dans la clinique, avec les grands enfants schizophrènes, toujours, disait-elle, n'est-ce pas, on commence ça quand on est jeune, et puis on fait autre chose. Et puis on l'équipe. Toi, dans le fond, tu...
C'est pas vrai, on peut jamais dire toujours, hein. Bon, il y en a eu d'autres, il y a quand même eu Robert et Rosine Lefort, ils se sont symptomatiquement intéressés jusqu'à la fin de leur vie. Hein.
Oui, c'est eux, ils continuent, c'est ça, voilà. Ouais.
Moi, je ne le fais pas de la même façon, mais bon. Chacun a sa façon.
Une question?
C'est très important hein, de repérer ça et de savoir ça. Parce que c'est un plus de vie formidable. C'est pour ça qu'on dit que c'est avoir avec la satisfaction. Oui, monsieur.
Oui, mais je voulais revenir un peu à votre parcours. Enfin, ce que vous avez dit, si vous pouvez en dire plus. Vous aviez, à un moment donné, signalé que vous aviez des difficultés avec votre corps au moment donc, de votre recherche et votre parcours vers la psychanalyse. Et au fond, est-ce que le fait d'avoir fait cette psychanalyse a modifié ce rapport à votre corps?
Oh là là, je devrais... Oui, je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus comme ça.
C'est surtout... Moi, parfois, la question que je me pose, c'est est-ce que la psychanalyse... interfère aussi sur le corps, la personne,
tout ce que, toute la vie à l'intérieur du corps,
ouais, que ça n'est pas uniquement dans la tête, quoi. C'est ça,
ma question. Oui. Oui, mais ça dépend comment on sait. Enfin, alors là, c'est toutes des grandes questions. Il faudra venir à la journée qu'on organise à la CF Belgique sur la question du corps, corps et psychanalyse. Voilà, je vous y invite tous. Le 20 février, et voilà, c'est sûr que le corps est impliqué tout à fait et constitué même par le parlant, par l'être parlant, par le fait qu'on parle, par le fait qu'on est engagé dans le langage. Et donc, du coup, forcément, le corps... est impliqué complètement dans la psychanalyse. Il y est tout autant que tout le reste, que la parole ou que...
On pourrait aussi imaginer, par exemple, si on est quelqu'un qui a beaucoup de tension dans le corps, est-ce que le fait de faire une psychanalyse, ça modifie justement toutes ces tensions?
Ah, parfois oui. Parfois oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, faudrait reprendre... C'est un autre... notre sujet.
Ça me donne l'occasion, au fond, de dire que je peux vous diffuser cette information de la CF pour ceux qui sont intéressés. Et si vous recevez déjà les informations par mail, je vous communiquerai, vous recevrez l'information de cette journée.
Il y a un autre point intéressant dans ce que tu as amené un peu en amont. Ce sont les deux positions de l'analyste. L'analyste comme sujet, disais-tu, et l'analyste comme agent.
Oui.
Et tu disais, c'est là-dessus que je voulais te poser une question.
Oui.
Sur là, justement, il suffit de dire ça pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a une tension, comme tu disais, entre ces deux positions.
Voilà.
C'est dans le fond, déjà, tu pourrais dire ça, l'analyste comme analysant, il ne sait pas, il pose des questions. Il se pose des questions. Mais comme agent. Comme agent, il faut plutôt qu'il les retienne.
Qu'il les retienne, oui.
Il faut qu'il les retienne. Parce que le sujet supposé savoir, pour le coup, Lacan dit quelque part, l'analyste n'a pas d'idée, ne pose pas de questions.
Et donc, ça, c'est toute la place, c'est toute
et
la
donc,
question.
C'est vraiment une tension, parce qu'on voit très bien que la position de l'analyste comme agent est celle comme analysant qui se tracasse en contrôle.
En contrôle, etc. Mais on voit que c'est essentiel, parce que. C'est essentiel pour justement dégager la place vide. Que doit laisser l'analyste agent, c'est-à-dire pas faire du compte. Par exemple, s'il va en contrôle, il faut pas que le contrôle aboutisse. Enfin, je sais ce que je dois dire à mon analysant. C'est pas ça. C'est justement le contraire. Justement, j'ai pensé ça, mais je sais que je dois m'en détacher pour lui laisser une autre place. Que de l'avoir repéré, pour que l'analysant puisse s'en dégager. Tu comprends ce que je veux dire, ce mouvement,
Moi, j'ai articulé ça avec le sujet supposé savoir aussi, plutôt.
Voilà, bien sûr.
Parce que le sujet supposé savoir, c'est quelque chose, comme c'est une supposition, c'est très fragile, et ça doit être protégé.
Voilà.
Et si on pose des questions, eh bien, c'est trop, on ne le protège pas. Et donc, on ne le rend plus efficace. Et donc, il y a là vraiment une tension, enfin, qui fait l'embrouille de l'analyste ou ses migraines, hein, ou son tracas, enfin son tourment à lui, dans le fond, qui est là dans cette tension entre les deux positions. Parce que, dans le fond, l'analyste, à partir de là, n'est jamais une position de savoir. Dans un cas, on ne sait pas, il faut qu'on cherche. Dans l'autre, il s'agit de faire exister une fiction efficace. Et donc, c'est une position vraiment impossible. Enfin, voilà.
Miller dit faut articuler les choses dans un système, voilà, pour que se dégage la position de l'agent, la position de l'analyste agent. Mmh. Autrement, il n'y a pas de possibilité de la dégager, cette place.
Voilà.
Donc il faut pouvoir dégager un savoir, il faut se former à dégager un savoir pour laisser la place à autre chose. Ben, je pense que c'est autrement, c'est l'embrouille complète. Hein. Mmh. On ne sait pas ce qu'on fait. Rien. Enfin, on ne sait jamais ce qu'on fait. Mais je veux dire, pour que quelque chose se produise, qui soit de l'analysant dans quelque chose d'une dimension qui pourrait surgir de son inconscient et de l'embrouille, clairement, eh bien, il faut que quelque chose d'un système soit organisé ailleurs pour laisser place à ce plus. C'est ça qu'il dit, hein, ce plus. Autrement, il ne peut pas avoir de surgissement de quelque chose d'insu. Ça, c'est vraiment la position. C'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment expérimenté aussi dans la cure pour se rendre compte de ce que ça peut être. Bon, autrement, on y va avec tout son imaginaire. Hein.
Je propose de remercier chaleureusement Véronique Mariage pour sa conférence.
Voilà.